À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Jérôme Garcin, très heureux d'être avec vous.
Deuxième épisode, mais fragile. Bonsoir Jérôme Garcin.
Bonsoir.
Mais fragile, c'est le titre du dernier livre en date. On enregistre en ce mois d'avril 2023, ce livre apparu en janvier de cette année. Un livre dans lequel vous racontez la mort de votre mère en septembre 2020 et celle de votre frère, Laurent, 6 mois plus tard. Un livre dans lequel aussi vous dévoilez un lourd héritage familial. Et ce livre-là, Mais fragile, fait suite à 2 autres dans lesquels vous êtes revenu à la fois sur la perte de votre frère jumeau Olivier, vous nous en parliez hier, et celle de votre père, quand vous aviez 17 ans. Le premier a pour titre Olivier, et le deuxième a pour titre La chute de cheval. Autrement dit, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, qui ne vous auraient pas lu, vous avez vécu une succession de drames dans votre d'abord prime enfance, puis votre adolescence, puis votre vie d'adulte, que vous avez mis assez longtemps à mettre en mots, et c'est ce que vous nous disiez dans la première émission. Il a fallu du temps, beaucoup de temps. Il a peut-être fallu une forme de réconciliation, vous allez nous dire avec quoi, pour que vous parveniez d'abord à en parler, et ensuite à l'écrire, ou d'abord à l'écrire, et ensuite à en parler.
J'ai longtemps pensé que, effectivement, que je pouvais vivre sans parler de tout ça. J'ai fait un choix professionnel très tôt dans ma vie, qui est d'être journaliste, et de l'être dans un domaine qui me semblait le plus proche de ma formation, c'est-à-dire la culture et la littérature en particulier, ce qui me paysait pas trop finalement, et qui me donnait le sentiment que j'étais pas trop infidèle à mes origines. Quatre fois j'avais fait Hippocagne et Cagne, j'ai fait après une licence et une maîtrise de philo à la Sorbonne, un mémoire sur Kierkegaard, et évidemment je venais, je vous l'ai dit hier, d'une famille où il n'était pas de bon ton d'aller du côté de la presse ou du côté de tout ce qui est voyant, comme on dit d'un bijou qu'il est voyant. Et donc, en entrant aux Nouvelles Littéraires, à 19 ans, je me disais finalement, je m'éloigne pas trop. C'est l'époque où il y avait encore un hebdomadaire culturel et littéraire en France. Je m'éloigne pas trop de ce d'où je viens. Et puis, j'ai aimé passionnément ce métier qui m'a conduit à faire de la télévision à un moment de ma vie, télévision littéraire. Je faisais des heures entières consacrées à Georges Perros. Là encore, c'est une télévision très oubliée, où on pouvait faire une heure sur Georges Perros ou une heure avec Claude Simon. Et puis plus je faisais ce métier, plus je l'aimais. J'ai eu la chance de rencontrer une femme que j'admirais autant que je l'aimais, qui est Anne-Marie Philippe, la comédienne. On a eu 3 enfants. Et finalement, la vie, comment dire, la vie était belle, la vie était heureuse, on faisait, elle et moi, Anne-Marie et moi, les métiers qu'on aimait, elle sur scène ou à l'écran, moi dans les journaux ou à la radio ou à la télévision. On avait des enfants bien portants et beaux. Et puis, je ne mesurais pas du tout. Et j'écrivais évidemment, mais pour moi, comme on dit, j'écrivais des poèmes qui n'étaient pas bons, j'écrivais des pages d'un pseudo-journal intime qui n'était pas nécessaire. Et je croyais, de manière finalement assez candide, que ce qu'on a vécu, et là je parle pour nous tous, pour vos auditrices, auditeurs, comme pour ceux qui sont dans cette pièce, qu'on peut mettre dans un tiroir finalement, ce qui vous est arrivé, même le pire, et puis tenter de vivre bien, loin, fort, en mettant ça de côté.
À aucun moment vous ne vous êtes dit, vous allez en faire une analyse, ou des gens autour de vous vous ont conseillé d'être aidé?
C'est une excellente question, parce que j'étais évidemment un cadeau. D'abord pour Françoise Dolto, ensuite pour les psys en général, parce que vivre ce que j'ai vécu me prédisposait évidemment, sinon à m'allonger très tôt sur un divan, du moins à parler avec des psychologues. Je ne l'ai jamais fait. Et donc, non seulement je ne m'étais pas, même pas auto-analysé, mais C'est vraiment, l'image, c'est vraiment mettre une couverture sur, sur soi. Et je pense, peut-être que on me jugera un peu rapide dans mon diagnostic, mais je pense que je me préparais à une grave maladie. Je pense que là encore, et Dieu merci, ma femme a joué un rôle, peut-être parce qu'elle est comédienne et qu'elle est aussi orpheline d'un père mort jeune, je pense qu'elle m'a beaucoup poussé à m'exprimer et à sortir ce que, par atavisme familial, par nature, je ne voulais pas dire.
Et puis il faut dire qu'après la mort de votre frère jumeau, dont vous allez nous raconter les circonstances, si vous le voulez bien, malgré tout, mais après la mort de votre frère jumeau, vous avez été mis à l'écart par votre famille. C'est-à-dire que, d'abord, on a effacé toutes les traces du jumeau, et puis vous n'avez pas pu assister à l'enterrement. Enfin, donc, déjà, cette histoire a été mise de côté pour votre histoire à vous.
Oui, mais c'est à tel point que des années, pour ne pas dire des décennies plus tard, ce que je suis en train de faire avec vous, Caroline Brouet, je ne pouvais pas le faire. Je n'arrivais pas au bout d'une phrase. Je m'écroulais en larmes, tellement je l'avais gardé pour moi et je ne l'avais jamais exprimé. Pour dire un mot de cette année 62, c'est vrai que on est sur une route de campagne, on va avoir 6 ans, Olivier et moi, on est derrière dans la voiture, une 203 gris pigeon, et mon frère Olivier demande à ce qu'on s'arrête pour voir des vaches dans un champ à côté, et il ouvre la portière, précipitamment, pour traverser la Nationale, on est en Seine-et-Marne, il fait beau, en fin de journée, une voiture arrive, un chauffard, renverse Olivier sous mes yeux. Premier choc, je vois le corps d'Olivier retomber sur le macadam. Mais le second choc qui a vraiment peut-être fondé spirituellement ma vie, c'est qu'elle ne s'arrête pas, cette voiture. Elle renverse un enfant et elle continue droit. Et je vois cette voiture fuir. Et c'est un... Et c'est un scandale que j'ai jamais accepté. Je pense que l'idée que je me fais de la justice est née de ce moment-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, mon père a voulu retrouver la trace de ce conducteur qui ne s'était pas arrêté, a fait appel, il était directeur des PUF, il a fait appel à un commissaire qui avait fait un cossel sur la police, je ne sais plus quoi, et avait retrouvé la trace. Et évidemment pas pour faire un procès ou n'importe quoi de ce genre, juste pour lui envoyer un mot en disant « vous avez tué un enfant ». Et je... Et je pense profondément que je suis né de là, de ce moment-là. Et effectivement, après, Olivier n'est pas mort tout de suite, il était dans le coma à l'hôpital. Et à ce moment-là, on a fait un choix qui était un choix de ses familles, parfaitement compréhensible des années 60, c'est-à-dire on éloigne. Et donc on m'a envoyé chez la sœur de ma mère.
C'était pour
vous
protéger.
Pour me protéger, pensait-on, pour m'épargner. Et donc j'ai été pendant des semaines placé à Sens, dans l'Yonne, dans cette famille que j'aimais beaucoup. Mais en même temps, on m'a privé de deux choses, c'est-à-dire de l'agonie d'Olivier, de mon double, et surtout de l'enterrement. Encore aujourd'hui, me manque d'avoir accompagné Olivier jusqu'au bout. Ça a une vertu, c'est qu'il vit toujours avec moi depuis ce jour-là. Et j'ai le sentiment que il ne m'a jamais quitté, mais en même temps, je n'ai pas pu lui dire adieu non plus. Et le drame qui a suivi 10 ans après, de manière mais presque métronomique, c'est que mon père, donc éditeur, vous l'avez compris, donc absolument pas sportif, dont le seul sport était la lecture et un peu l'écriture, n'a pas supporté la mort d'Olivier et a fait le choix d'une activité sportive à risque, qui est l'équitation. Et c'est de ça que 10 ans après, il est mort en forêt de Rambouillet, son cheval s'étant emballé en tombant d'un trotteur totalement fou. Et ça a été le second traumatisme de ma vie, ajouté à nouveau à ce qui était insupportable, c'est-à-dire que j'étais pas là, j'étais à la montagne. Je suis rentré, j'avais 17 ans, je rentre précipitamment, c'était pendant les vacances, 21 avril 1973, les vacances de Pâques. Et quand j'arrive, c'est trop tard. Mon père est mort, je n'ai pas pu non plus lui dire adieu. Ce qui fait que quand très très longtemps après, c'était il y a 2 ans, quand ma mère est morte, quand mon frère Laurent, cadet, est mort, ils ont été paradoxalement mes premiers morts. Je veux dire, les premiers morts dont je voyais les visages de mort et que j'ai eu le sentiment vraiment d'accompagner, selon la formule rituelle, jusqu'à leur dernier soupir. Mais c'est très étrange, finalement, d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Je réponds un peu longuement à votre question, et pas bien, je sais, mais c'est vrai que j'ai été épargné moi-même par l'analyse, et il m'a fallu un temps fou pour comprendre que il fallait maintenant écrire. Pas pour publier, je m'en foutais complètement. Écrire pour m'auto-analyser. Pour vous donner une idée précise, j'ai mis encore plus de temps à écrire Olivier qu'à écrire La Chute de Cheval.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que La Chute de Cheval a paru en 1998, Olivier en 2011.
Parce que ça m'était insupportable.
Vous n'avez pas commencé
par Olivier.
Parce
que je n'arrivais pas à l'écrire. Pourquoi ? Je ne voulais pas et je ne pouvais pas raconter cette scène de l'accident. Je ne pouvais pas. Et donc j'ai mis un temps fou. Mais en même temps, en écrivant Olivier, je me suis rendu compte de tout ce que peut-être j'aurais dit si on m'avait confié à un analyste. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai compris, mais oui, bien sûr, mais pourquoi est-ce que depuis que tu as 19 ans, tu travailles autant, sinon pour deux? Pourquoi est-ce que ta vie est binaire? La gémellité, elle est totale dans ma vie. Je vais même jusqu'à penser que si un jour j'ai rencontré Anne-Marie, c'est parce que précisément, elle, avec un père mort à 36 ans, moi avec un père mort à 45 ans, on était destinés presque à unir, comme s'unissent des jumeaux. C'est en écrivant Olivier que je me suis dit, mais ma passion pour le cheval, elle n'est pas simplement liée à ce qu'était celle de ton père, elle est liée aussi au fait que d'avoir le sentiment, et c'est pas du tout une figure de style, c'est très physique ce que je dis là, de monter un animal qui a 4 jambes. C'est un animal pour jumeaux, le cheval. Quand on galope, c'est à 2. Et même à 3 si je pense à mon père. Mais il a fallu un temps fou pour oser l'écrire, pour pouvoir l'écrire, je parle de tous ces livres-là, pour franchir le cap qui est aussi un cap qui peut faire sourire certains. Et là aussi, je m'en fous, mais c'est vrai qu'il y a une part d'impudeur. Écrire Olivier ou La Chute de Cheval, au début, je me suis dit, mais c'est pas bien. C'est pas bien de raconter, d'avoir ensuite à en parler. Eh bien non, je pense que j'ai eu raison de le faire. Je pense que ça m'a sauvé d'une certaine manière. Je pense que je ne serais pas le même aujourd'hui si je n'avais pas écrit ces livres-là. Je pense que d'une certaine manière, je suis en paix avec moi en ayant écrit ces livres-là. Il y a une femme que j'ai beaucoup aimée, que j'ai eu la chance de connaître bien, qui était Barbara, la chanteuse Barbara.
Vous lui avez consacré un ouvrage aussi.
Et elle passait son temps à me dire, tu sais, quand elle me parlait d'une chanson ou d'une idée qu'elle avait ou d'un choix qu'elle avait fait de défendre telle ou telle cause, elle me disait, là, tu vois, et puis elle me parlait, tu vois, je suis OK avec cette femme-là. J'adorais ces cadres. Ben, de temps en temps, je me dis, ben, moi, je suis OK avec cet homme-là quand j'ai écrit certains livres. quand Anne-Marie, qui est ma première lectrice, a lu le livre avant publication, elle me dit, alors que je vivais avec elle, qu'elle était ma femme depuis des années, hein, elle me dit, mais je ne mesurais pas à quel point ton jumeau comptait dans ta vie quotidienne. Même celle avec qui je vivais ne le mesurait pas. Si je ne l'avais pas écrit, elle ne l'aurait peut-être pas su. Quand j'ai écrit Théâtre intime, sur elle, pour le coup, sur une bien vivante, ce sont mes enfants qui m'ont dit, mais papa, on découvre enfin qui est notre mère.
Ça sera le quatrième Donc, épisode, oui.
Je le dis sans gêne, hein, j'écris pour moi, pas pour les autres. Tant mieux si ça passe, si mon expérience personnelle peut être partagée par d'autres. Mais reste en moi sans doute une manière de combattre perpétuellement une incompréhension doublée d'un effroi. C'est celui du garçon que je suis à 17 ans, qui pénètre pour la première fois dans le bureau de son père quelques jours après sa mort. Et comme mon père, je vous l'ai dit, écrivait de très belles études sur de grands écrivains classiques dans les grandes revues littéraires, je me vois ouvrant les tiroirs de son bureau, je parle à la maison, hein, je parle pas à la maison d'édition, et j'ouvrais et je cherchais des textes manuscrits de lui. J'en ai trouvé plein, notamment un texte admirable qu'il a écrit avant de mourir, sur Charles Péguy. Magnifique texte, qui se termine presque par Péguy qui rêvait d'une mort bien fauchée qu'il a eue dans les seigles de Valleroy. Il écrit ça, de très belle écriture manuscrite, très jolie écriture. Il écrit ça et il part monter dans la forêt de Rambouillet et il se tue. Et quand je retrouve ce texte, évidemment, je suis bouleversé de savoir qu'un homme qui va mourir écrit ça. Mais je continue à chercher et... Et là encore, nouvel aveu de candeur, je me dis, mais il y a forcément des pages de lui sur Olivier, ou sur moi, des textes personnels, et je ne trouve rien. C'est le tiroir du bureau d'un homme, never complain, never explain, qui ne se raconte pas, qui parle admirablement d'Arrigo Bell milanaise, ou de Diderot, mais pas de... Et l'adolescent qui ne trouve pas ces traces-là est devenu un adulte qui n'a qu'une envie, c'est de laisser au contraire des traces. Je suis presque sûr que ça s'est passé dans ce moment-là, très précis, de l'orphelin de père qui ne trouve pas la preuve de sa propre existence. Moi, je sais que je pense toujours à ce que je voudrais que Gabriel, Jeanne, Clément, mes enfants, mais aussi mes petits-enfants, trouvent un jour, pas du tout pour savoir qui j'étais, ça c'est pas important, mais pour savoir que je n'ai pas voulu laisser la place à l'ingratitude de l'oubli. Moi, je suis quelqu'un qui croit, je ne crois qu'à des valeurs qui sont totalement obsolètes. La fidélité, la gratitude, le lecteur que je suis ne supporte de moins en moins les livres que je reçois à foison, et j'imagine vous aussi, Caroline, qui ne sont plus que des règlements de comptes familiaux, que des exercices de détestation, des précis de haine, où il faut toujours essayer d'expliquer pourquoi son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses grands-parents étaient des personnes malfaisantes. Moi, j'ai vraiment la conviction, et c'est pas par angélisme, attention, hein, que écrire, c'est au contraire célébrer. Et je le pense tellement que tous les autres livres qui ne concernent pas les miens sont consacrés à des figures que j'admire, dont je ne supporte pas l'oubli dans lesquelles, le plus souvent, ils ont été placés.
Mais en 2010, un an avant que le livre Olivier sorte, vous avez eu peur qu'Olivier soit oublié, tout d'un coup ?
Mais attendez, mais qui voulez-vous qu'on... Mais comment même peut-on se souvenir d'un enfant d'à peine 6 ans ? Non seulement il était oublié, mais il n'avait jamais... Pour tout le monde, il n'avait presque jamais existé. Comme en plus, j'en parlais pas. Personne ne savait. Et quand le livre a paru dans la collection Blanche et qu'il y a le nom de l'auteur en petit et en gros, en lettres rouges Olivier, encore 10 fois supérieur au prénom de Jérôme. Mais vous n'imaginez pas ce qu'a été ma joie. Et ma mère vivait encore. Et quand le livre a paru en collection de poche, où là, tout d'un coup, j'ai osé, ce que je n'avais pas osé avant, mettre en couverture une photographie d'Olivier et de moi au pied de Notre-Dame. Et quand je venais voir ma mère toutes les semaines, chez elle, j'arrivais, j'avais peur un peu de sa réaction. Comment est-ce qu'elle va vivre ce livre et cette photo-là? Et chaque fois, elle me disait, mais quand j'arrivais pour déjeuner, elle me disait, mais comment va Olivier? Ça voulait dire, est-ce qu'il y a des lecteurs? Est-ce qu'on s'y intéresse, Olivier? Mais la question, c'était, comment va Olivier? Quand vous entendez votre vieille mère demander comment va Olivier à propos de son fils, de mon jumeau, mort à peine 6 ans, eh bien, je peux vous jurer que vous avez le sentiment que vous n'avez pas écrit en vain.
Cette mère, Jérôme Garcin, vous avez écrit sur elle, on le disait au début de cette émission, un livre qui s'intitule « Mes fragiles », qui a paru en janvier 2023 et qui revient. C'est un hommage à cette mère, mais c'est autre chose aussi ce livre, parce que c'est un livre dans lequel vous révélez un secret aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas pu dire à votre mère de son vivant. Là, vous l'avez épargnée, vous vouliez la préserver.
Tellement préservée qu'à la fin du syndrome de Garcin, j'évoque dans un bref chapitre cette maladie sans la nommer. Pourquoi je ne la nomme pas ? Parce que je ne voulais pas, précisément, qu'elle le sache. Je dirais, juste à la veille des années 2010, je reçois la visite d'un cousin qui est médecin, psychiatre, qui me dit, tu devrais faire des analyses génétiques. Je dis, pourquoi ? Il me dit, parce que il y a, comme dirait Audi Berti, le mal court dans la famille. Et je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il me dit, il y a des trucs trop bizarres, des symptômes qui se retrouvent ici et là, dans cette grande famille, prétendument à l'abri de tout, parce que c'est une famille hippocratique, une famille de médecins. Mais je sens, et il savait lui, que ce mal court avait un nom. C'est le chromosome X, qui est une X fragile, qui est une anomalie génétique du chromosome X. Et donc, bon conseiller, mon cousin m'avait dit, si c'est ce que je pressens, le X tu l'as donné à ta fille, à tes deux garçons tu as donné l'Y. Donc ils sont à l'abri de ce que je pressens. Et donc je vais à la salpêtrière avec Jeanne. Pour qu'on comprenne bien les choses, Jeanne, évidemment c'est le père qui parle, est belle, intelligente. Non mais je veux dire par là que rien ne pouvait laisser penser à quelque chose qui, quand on connaît la réalité de cette maladie, ne pouvait penser qu'elle en était atteinte. Et donc on va faire ces analyses à la salpêtrière en 2010, et quelques semaines plus tard, les résultats tombent, et ils sont terribles, puisque je suis porteur sain, ce qui ne met pas à l'abri de problèmes neurologiques un jour ou l'autre, mais j'apprends du même coup que je l'ai transmis à ma fille, effectivement, avec un pourcentage un peu supérieur au mien, et qu'elle-même l'a transmis à sa fille, à ma petite fille, Esther. Et donc, on a tout d'un coup la preuve que ce chromosome X nous a été transmis par notre mère, et que toute la famille en est atteinte. Il faut savoir que le X fragile est une maladie complexe, sournoise, très grave. C'est la deuxième cause de retard mental après la trisomie 21. Mais à la différence de la trisomie, à la différence de l'autisme et de beaucoup d'autres maladies, elle est héréditaire. Et quand je dis qu'elle est héréditaire, c'est double peine, puisque plus elle se passe d'une génération à l'autre, plus le mal s'aggrave. Que c'est évidemment insoignable, les médecins le connaissent mal, et donc quand on apprend ça, évidemment, ça provoque chez moi un sentiment de culpabilité un peu irraisonné, responsable oui, coupable non, mais je le vis mal, très mal. Mais je fais le choix de ne pas le dire à ma mère, que je juge assez atteinte par une série de drames dans sa vie, et surtout, c'est la clé de tout, mon frère cadet, Laurent, lui est très lourdement atteint. Pour vous donner une idée très simplifiée, sa vie était celle à peu près d'un autiste, dont la faculté de parler, de s'exprimer était quasiment nulle. Et je ne voulais pas que ma mère, apprenant ça, non seulement elle aussi se sente coupable ou responsable, mais surtout qu'elle regarde différemment Laurent. Pour elle, c'était un garçon différent, mais pas un handicapé, alors qu'il l'était, qui s'exprimait par de très beaux, joyeux tableaux, ça lui suffisait. Et donc, je n'ai pas voulu donner un nom à la maladie dont elle voyait bien qu'elle atteignait Laurent en particulier. C'est ravageur, hein, et c'est très mal connu. C'est la raison pour laquelle j'ai publié aussi Mes Fragiles, c'est que je voulais donner un nom à une maladie que je juge injustement ignorée par la faculté de médecine. Et depuis la parution du livre, je suis bombardé de mails d'associations ex-fragiles en France, en Belgique, en Suisse, partout, de malades, de médecins, qui me disent que ça devrait être une cause nationale, parce qu'elle ravage des familles entières. Et que surtout, il faut essayer d'enrayer cette maladie. Or, il y a un seul moyen de l'enrayer, c'est ce qu'a fait ma fille. Ma fille, très courageusement, à 4 mois de grossesse, a fait une amniocentèse. L'amniocentèse permet de voir le degré de pourcentage dont est victime ou non le fœtus. Ou l'autre choix, évidemment, pour une femme, c'est la gestation in vitro. Mais seules les femmes peuvent enrayer la propagation du mal. Donc c'est aussi pour ça que j'ai tenu à donner le nom, ma mère étant morte, mon frère étant mort, oui, pour lancer aussi un appel. Et là-dessus, depuis janvier, je peux vous dire que j'ai été entendu.
Jérôme Garcin, on a parlé de plusieurs livres qui racontent tout ça, dans lesquels vous vous racontez. Est-ce que, avec Mes Fragiles, vous diriez que vous avez clos le cycle des livres sur vous-même? Est-ce que vous avez écrit tout ce que vous aviez à écrire sur vous?
Ben d'abord, si vous permettez, je me le souhaite. Je me le souhaite.
C'est vrai, compte tenu de ce que vous avez raconté, oui, on vous le souhaite.
Il faut jamais dire jamais, mais oui, j'ai le sentiment d'avoir clos une histoire qui, malgré tout, me met pas à l'abri de d'autres inquiétudes. Mais c'est vrai que, en tout cas, je n'ai plus qu'une envie maintenant, c'est de me consacrer à d'autres vies que la mienne.
Merci Jérôme Garcin. À demain.
À demain, Caroline.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Frédéric Quérou, réalisation Félicie Faugère, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.